Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans l'émission Espérance aujourd'hui, nous parlons de la Bible, car par elle, Dieu s'adresse à chacun et à chacune à travers les problèmes que nous pouvons rencontrer au quotidien.
L'un de ces problèmes est la violence. À ce sujet, André et Yann parleront de certaines paroles prononcées par Jésus.
Aimez vos ennemis. Dans un monde violent, Jésus s'attend-il vraiment à ce que l'on aime ses ennemis? Que voulait-il dire exactement? André est encore avec moi pour en discuter. Bonjour André.
Merci Yann et bonjour à tous. Avant d'aller plus loin dans nos discussions, il serait peut-être bon de lire le contexte de cet enseignement de Jésus. Ces trois paroles, « Aimez vos ennemis » se trouvent dans le Sermon sur la montagne. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 à 7, la partie qui nous intéresse aujourd'hui va du chapitre 5, verset 38 au verset 45 du même chapitre. Pouvez-vous lire ce passage, s'il vous plaît, Yann?
Oui, bien sûr. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. »
Les disciples de Jésus vivaient dans un monde violent. Ils étaient parfois la cible simplement du fait qu'ils croyaient en Jésus. Les Juifs, aux convictions religieuses traditionnelles, étaient contre eux. L'Empire romain se montrait souvent hostile aux activités des chrétiens qui ont subi par moments brutalité et atrocité. L'enseignement de Jésus ne s'adressait donc pas aux personnes qui vivaient dans un monde paisible et juste, mais aux croyants qui se trouvaient confrontés aux réalités cruelles d'un monde violent. Pour certains, aujourd'hui, ce monde est tout aussi cruel.
Oui, c'est bien vrai. J'ai pourtant remarqué dans ce discours que Jésus a dit à deux reprises « Vous avez appris », suivi de « Mais moi, je vous dis ». Jésus veut changer, me semble-t-il, notre façon de réagir au phénomène de la violence.
Oui, tout à fait. Jésus aborde une façon de penser qui se trouve enracinée dans pratiquement toutes les cultures et toutes les sociétés. Le principe de vengeance ou de représailles. Il s'agit de l'idée que si quelqu'un vous fait du mal, vous avez le droit, même parfois le devoir, de vous venger contre la personne ou la famille de l'auteur du crime. Jésus dit qu'il faut refuser de se laisser dominer par le désir de vengeance. Il faut mettre de côté cette façon de penser et s'abstenir de ce comportement.
Mais il nous arrive parfois d'avoir des informations sur des conflits tribaux ou religieux et d'entendre la souffrance de villageois qui ont vu leur maison brûler, leur fille violée et le jeune homme ayant captif. Cet enseignement de Jésus s'applique-t-il à ce genre de cas?
Cet enseignement s'applique à tous les cas où la violence fait ses ravages. Nous pouvons comprendre la douleur extrême de tous ceux qui ont vu ou vécu la violence de près. Nous pouvons comprendre leur désir de vengeance. Mais Jésus veut briser le cercle vicieux de la violence et pour que cela se fasse, les chrétiens doivent mettre en pratique l'enseignement de Jésus.
Mais Jésus ne se contente pas simplement de nous demander de nous abstenir des représailles. Il lui demande d'aller plus loin, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai. Aimez vos ennemis. Il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'une exhortation à faire quelque chose de positif, de bienfaisant envers ceux que nous aurions tendance à haïr.
Nous avons l'habitude d'aimer nos familles, nos voisins. Mais pour nos ennemis, là, Jésus nous demande de sortir de l'ordinaire.
C'est exact. Mais notez bien comment Jésus définit l'amour pour ses ennemis. Dans le verset 44, Jésus emploie trois verbes. « Bénissez, faites du bien et priez ». J'aimerais souligner l'importance de ces deux démarches spirituelles, bénir et prier. Bénir, c'est d'abord souhaiter que nos ennemis reçoivent la bénédiction de Dieu. Prier, c'est demander à Dieu d'intervenir pour leur bien dans la vie de nos ennemis. C'est aussi par la prière que nous pouvons commencer à regarder nos ennemis autrement, avec les yeux de Dieu. C'est par la prière que nous pouvons surmonter nos mauvais sentiments envers eux et trouver la force d'être disposés à leur pardonner et à leur faire du bien. La prière est capitale, car si nous ne pouvons pas détourner nos ennemis de leur méchanceté, Dieu le peut. Le meilleur espoir de briser le cercle de la violence est que Dieu aide ceux qui pratiquent la violence à prendre conscience de leurs mauvaises actions et les conduise à se repentir.
Mais est-ce que nous pouvons réellement, comme vous le dites, briser ainsi le cercle de la violence?
Cette perspective de Jésus introduit de l'espoir dans une situation désespérée. Mais je ne peux pas en garantir le succès tellement la violence est enracinée dans le cœur des hommes. Toutefois, avec Dieu, rien n'est impossible. Il faut s'accrocher à cette conviction. En s'abstenant de la violence et en faisant du bien à ceux qui nous maltraitent, nous pouvons arranger la situation, éviter qu'elle empire. Nos attitudes et notre comportement devenus radicalement différents peuvent créer un effet de surprise qui fasse remettre en question nos ennemis, les conduise à changer de comportement à notre égard. Pour conclure, je voudrais souligner que Jésus et Dieu ne nous demandent pas de faire quelque chose qu'ils n'aient pas fait eux-mêmes. Jésus nous appelle, en fait, à suivre son exemple.
Vous voulez dire que Dieu a aimé ses ennemis ?
Oui, tout à fait. Écoutez quelques paroles de l'apôtre Paul, écrites à l'église de Rome. « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et plus loin, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. »
Alors, si j'ai bien compris, selon l'apôtre Paul, nous sommes ennemis de Dieu et à cause de nos péchés.
Oui, c'est exact. Le péché, c'est refuser de laisser Dieu régner dans nos vies. C'est lui désobéir, le mépriser. Nous en avons tous été coupables. Tous, sans exception, sont ennemis de Dieu. Et nous le demeurerons jusqu'au moment où nous reconnaissons en Jésus notre Seigneur et Sauveur et que nous nous réconcilions avec lui.
Et en quoi Dieu a-t-il aimé ses ennemis?
Comme Paul l'a dit, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans ce monde afin d'ouvrir la voie à la réconciliation et au pardon. Ainsi, Dieu a pris l'initiative, il est allé vers ceux qui ne le cherchaient pas, mais, en plus, Dieu a payé le prix nécessaire pour obtenir ce pardon. Il fallait que Jésus se donne en sacrifice, qu'il meure sur la croix. La croix est une révélation de l'amour de Dieu pour ses ennemis. Nous ne devons pas y être insensibles. Nous avons besoin de recevoir cet amour de Dieu, ensuite de le vivre et de l'imiter dans nos circonstances par moments difficiles.
Aimez vos ennemis. Il serait agréable de vivre dans un monde où chacun applique les paroles de Jésus. Que Dieu vous donne le courage nécessaire pour faire le premier pas.
Il y a des rencontres qui changent profondément le cours de la vie, que ce soit en bien ou en mal. Dans la Bible, nous lisons le récit d'un homme atteint de la lèpre qui s'est approché de Jésus. Étienne est de retour parmi nous pour raconter les résultats merveilleux de cette rencontre. Mais d'abord, Hélène va lire le texte, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3.
Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre.
La vie est trop souvent ponctuée d'épreuves et de tragédies, mais grâce à Jésus, la vie de cet homme atteint de lèpre prend une bienheureuse tournure. Il est difficile d'imaginer à quel point le fait d'être purifié d'une maladie aussi terrifiante que la lèpre peut changer la vie. Malade et mourant, cet homme a retrouvé la santé, sa peau et sa chair se sont reconstituées instantanément et parfaitement. Auparavant, exclu de la société, isolé, cet homme peut reprendre sa place, dans sa famille, dans son village, dans son travail. Privé d'accès des lieux de culte et de Dieu par son état d'impureté, cet homme peut de nouveau participer à la vie religieuse. Il peut renouer sa relation avec Dieu. De toutes les bienheureuses conséquences de sa purification, c'était peut-être cette dernière la meilleure. Car si Jésus s'intéresse aux hommes et aux femmes dans toutes les expériences de leur vie, il est d'abord et surtout venu afin de nous purifier devant Dieu. Il est vrai que l'on ne se soucie guère de cela. D'autres problèmes semblent beaucoup plus préoccupants. Toutefois, c'est dans une perspective éternelle que nous devons réfléchir à notre position devant Dieu. Selon la Bible, nos fautes nous rendent impurs devant Dieu. Cela signifie que, tout comme l'homme atteint de la lèpre, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas entretenir de relations personnelles avec lui, et nous sommes condamnés à mourir éternellement. Cette perspective devrait nous épouvanter, et pourtant nous l'acceptons facilement. Situation d'autant plus étonnante que Jésus peut et veut nous rendre purs, instantanément et parfaitement. Il suffit de nous adresser à lui dans la foi. Et les résultats de cette purification de nos fautes sont tout aussi merveilleux que pour l'homme atteint de la lèpre. Le meilleur, c'est de pouvoir connaître Dieu, d'être réconcilié avec lui, d'être compté parmi ses enfants. Oui, vous pouvez l'appeler votre Père et avoir l'assurance qu'il s'occupera de vous avec un amour parfait, un amour qui se manifeste par sa compassion, sa fidélité, sa patience. Ensuite, vous pouvez être accepté comme membre du peuple de Dieu et ainsi participer activement à une église locale. Vous y rencontrerez une nouvelle famille, vous aurez de nouveaux frères et sœurs avec qui partager vos joies, vos peines, avec qui vous pourrez cheminer sur les traces de Jésus. Et enfin, tout comme les perspectives d'avenir de l'homme atteint de la lèpre ont complètement changé, devenant comme la nuit et le jour, les vôtres changeront aussi. Un avenir sans Dieu est sans espoir. Un avenir avec Dieu est plein d'espérance, pour aujourd'hui et pour l'éternité.
Le témoignage de cet homme purifié de la lèpre nous incite à nous approcher de Jésus, car lui seul peut transformer nos vies de façon tout aussi merveilleuse. Prochainement, dans Espérance aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'écouter des témoignages montrant que Jésus demeure aujourd'hui encore puissant et plein d'amour.
Avant notre premier témoignage, nous conclurons notre série de discussions sur la violence et répondre à la question « L'avenir, que réserve-t-il ? » En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.